Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.
Salut à tous, c'est Kevin et vous êtes sur RKS pour votre émission Rien à foutre, l'émission qui vous informe sur l'actualité footballistique en Isère. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour parler football et mettre en lumière nos clubs amateurs. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle émission spéciale confinement avec un invité de prestige. Il a été joueur de foot professionnel, il est aujourd'hui entraîneur à Saint-Martin-d'Hères. Mes amis David Dubourg est mon invité aujourd'hui. Avec lui, on reviendra sur son parcours, sa carrière, sa reconversion au poste d'entraîneur, son arrivée l'année dernière également à Saint-Martin-d'Hères. Mais avant tout ça, on va démarrer comme d'habitude par les principales actualités footballistiques de la semaine. Vous êtes sur RKS, bienvenue dans Rien à foutre.
Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.
Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a vraiment pas mal d'infos là. On sent que depuis que la FFF a annoncé l'arrêt de tous les championnats amateurs, ça recrute dans tous les sens. Il y a beaucoup de changements dans les clubs. Le football club de la Vallée de la Grèce a été très actif, encore une fois cette semaine, avec la signature d'André Mauté, un attaquant passé par Domaine, Crawl, La Sieg, qui a donné son accord pour s'engager au FCVG la saison prochaine. Le FCVG qui sera entraîné par Manu Ribeiro, hein, je l'avais déjà dit il y a quelques semaines maintenant. Au niveau professionnel maintenant, et notre équipe IGF 38, le défenseur Eric Van Den Adil n'a pas trouvé d'accord pour une prolongation de contrat. Donc il trouvera certainement rapidement un club à la hauteur de ses ambitions. On parle de Valenciennes avec Olivier Guégan. Et Arsène Logo devrait également signer à Valenciennes, lui qui est également sur le départ. Donc on se demande si vraiment Valenciennes, c'est pas finalement la succursale du IGF 38 après effectivement les départs l'an dernier de Maxime Fano-Raou et également les départs de Malek Chirgui. Il y a des fins de contrat également au niveau du IGF 38 qui ne sont pas conservés, notamment Camara, Gibault et Koulibaly. Et Jonathan Pinon a annoncé également cette semaine qu'il mettait un terme à sa carrière à peine 30 ans. Au niveau amateur, on revient au niveau de l'US Sassenage puisque Eric Moncada est nommé responsable sportif du club. Eric Moncada qu'on avait reçu dans l'émission, dans les studios. Donc je le recontacterai certainement prochainement pour qu'on puisse discuter de ses nouvelles fonctions au club. Mais il aura sans doute la charge déjà de tous les éducateurs, en plus de la mise en place d'un projet sportif. Et sous la houlette d'Eric, le bureau également de Sassenage a également nommé Cédric Détra en tant que responsable de foot animation jusqu'au U15 inclus. Au niveau national, le FC Bourgoin-Jallieu a se séparé de Fabien Tissot. L'équipe 1 sera maintenant confiée à Jérémy Clément qui, tout fraîchement retraité, du coup, va prendre la tête de cette équipe. Et au niveau R2, maintenant, JR a nommé Nicolas Bache en tant que manager du club. Il est actuellement à la recherche d'un entraîneur, Nicolas Bache. On l'avait également reçu dans cette émission parce que c'est également le gérant du Duc Football féminin. Sans transition, j'accueille mon invité du jour, David de Tchébourg. Salut David.
Salut, bonjour à tous.
Salut, ben merci en tout cas de ta patience parce que c'est vrai que c'est pas évident avec le méthode un petit peu... on va dire révolutionnaire là pour la radio. Mmh. On fait tout ça à distance par téléphone. C'est vrai que c'est pas évident.
Bien sûr.
Merci en tout cas aussi d'avoir accepté mon invitation d'être là pour cette émission. Ça fait un moment qu'on s'est eu au téléphone et qu'on essayait de le faire. Et là, on a profité justement du confinement pour être ensemble. Comment tu vas?
Ouais, ça va très bien. Mis à part, bon, voilà, on est tous confrontés à ce problème de confinement. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on soit en bonne santé et on attend avec impatience de pouvoir sortir de ce confinement, comme tout le monde.
Ah ouais, parce que toi, tu es confiné du coup depuis le départ, hein, comme moi, je suppose.
Mmh. Ouais, depuis le mi-mars.
Ouais. Et tu es confiné du coup avec ta famille?
Oui, avec ma famille. On essaye de faire un peu de sport. Bah, j'ai la chance d'habiter dans un lotissement où j'ai une terrasse qui est assez grande. Ouais. Donc, on aménage ça pour faire un peu, pour bouger, pour faire du sport, parce que on est des sportifs et c'est vrai que quand on a l'habitude de bouger, de faire du sport, le fait de ne rien faire, c'est ça paraît un peu frustrant. Donc avec les moyens du bord.
Je suppose. Ouais. Bah et du coup, toi tu as vécu de cette histoire de fin de saison parce que tu as été impacté forcément avec ton club. Qu'est-ce que tu penses du coup et quelle incidence du coup pour toi et ton équipe cette fin de saison?
Non, nous, par rapport à la fin de saison, il n'y a pas trop d'incidence, parce qu'au niveau du classement, au niveau des résultats, on a fait, je pense, une bonne saison, même si on n'a pas pu la terminer. Il n'y aurait pas d'incidence, parce qu'au niveau ni de la montée, ni de l'accession, ni de la descente, on aurait été, je dirais, impacté.
Oui.
Voilà, on aurait fini, je pense, dans le ventre mou, voire première partie de championnat. Mais l'objectif, vraiment, c'était pas l'accession à R3. Et il fallait surtout pas descendre. Et on travaille surtout sur, sur la continuité, parce que moi, en tous les cas, c'est ma première année à Saint-Martin-d'Hères et c'est une année de transition. Il fallait instaurer pas mal de choses, instaurer un cadre de fonctionnement. Donc il y a pas mal de boulot et ça a été une très très bonne saison.
Ouais, t'es content du coup, parce que ça, c'est arrivé l'année dernière. Tu disais en arrivant là-bas, j'ai un article. Donc tu faisais tout pour bien faire ici. Est-ce que du coup, après presque un an passé là-bas, est-ce que toi, du coup, tu es content?
Oui, très content de surtout l'aspect humain. Après, je savais où j'allais mettre les pieds. Hein. C'est un club qui a tout pour réussir, tout pour être un grand club. Maintenant, c'est vrai que il y a des mentalités qu'il faut changer, dont la présence à l'entraînement, dont être un peu plus compétiteur, la rigueur. Voilà, il y a tout ça et au fur et à mesure que la saison passait, voilà, mes joueurs. Ils ont adhéré à un discours et ça allait de mieux en mieux. Ben, c'est avec le temps qu'on arrive à faire les choses. Et, sur cette deuxième partie de saison, c'était très intéressant.
D'accord. David, tout ça, on va essayer d'y regarder un petit peu plus tard. Moi, j'aimerais d'abord que tu te présentes un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas, même si tu es quand même une grande figure du football grenoblois, parce que tu es notamment devenu professionnel, hein, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Voilà, est-ce que tu peux présenter un petit peu ton parcours et ta reconversion, notamment au poste d'entraîneur?
Bien sûr. Alors moi, mon parcours, j'ai un parcours de jeune footballeur au sein de Mélan. Donc, anciennement, ça s'appelait la Tronche Mélan. Ensuite, j'ai intégré le centre de formation à Grenoble. Oui. À l'époque, on avait fusionné, je crois, avec les Jojo, etc.
Oui.
Ensuite, donc j'ai fait ma formation à Grenoble. Ensuite, je suis resté 10 ans. J'ai signé 10 ans au sein du club, mais je faisais partie de l'équipe Fagnon, donc l'équipe professionnelle. Après, avec des hauts et des bas, avec des dépôts de bilan, des difficultés, etc. Oui. Dans tous les cas, c'est fut un grand plaisir, surtout d'avoir côtoyé les gens que j'ai côtoyés, d'avoir exercé ma passion en tant que professionnel. Et donc, j'ai passé 10 ans à Grenoble. Ensuite, j'ai fait un an au Paris FC.
Ouais.
Et un an à Dijon.
D'accord.
Voilà. Tout ça entre National 2, National... quelques matchs au tout début en D2 avec Grenoble, et voilà, c'est grosso modo c'est ce que j'ai vécu en tant que joueur.
Ouais. Et du coup, après, tu as pris ta retraite en quelle année?
Et après, j'ai pris ma retraite assez tôt.
Ouais.
De par ma situation familiale.
D'accord.
À 31 ans, j'ai pris ma retraite à 31 ans, c'est pour ça que j'avais encore envie de jouer et de là, la transition a fait que on m'a proposé un poste d'entraîneur. Oui. Parce que j'avais pas cette vocation d'entraîner, parce que auparavant, même quand j'étais joueur, j'ai eu des opportunités d'entraîner, mais ça me disait pas plus que ça.
Oui.
Et là, parce que peut-être que j'avais arrêté, parce que j'ai arrêté ma carrière prématurément, j'avais envie aussi de continuer, et j'ai eu cette occasion donc au Rachet. C'est Alain Di Tommaso qui m'a proposé, qui m'a dit bon voilà, moi ça fait 10 ans que j'entraîne, et j'aimerais bien franchement que tu prennes ma succession. Donc je lui dis oui, mais moi je suis novice dans ce métier-là, et donc j'ai pris sa succession en tant qu'entraîneur joueur.
D'accord, ok.
Voilà. Donc on a fait 2 ans. Je l'ai pris. Eux ils montaient de promotion d'excellence à excellence. On est resté 2 ans en excellence. On est monté en R3 6 ans, et donc j'ai fait 2 ans d'excellence, 6 ans de R3 et 2 ans de R2. On est monté en R2.
D'accord, ok. Ouais, c'est vrai qu'il s'est Il s'en est passé des choses quand même depuis que tu es devenu entraîneur et que tu as été lancé par Alain Di Tommaso, qu'on a vu aussi dans cette émission.
Exactement.
Il n'y a pas si longtemps que ça, un super mec. On l'a passé un
très passionné, un super garçon. Ouais, super garçon. Et donc super. Voilà, avec pas mal d'épopées en Coupe de France, une très belle aventure.
Ouais.
Et je dis un peu, c'est ma seconde famille, mais c'est tout à fait ça, au Rachet. J'ai beaucoup d'attachement avec des gens que j'apprécie énormément.
Oui.
Et voilà. Et c'est ce qui m'a donné vraiment le goût d'entraîner. Et ensuite, j'ai passé des diplômes. Et ensuite, Max Marty m'a sollicité pour prendre les U19 du GF38.
Oui.
Donc, j'ai pris 2 ans les U19 du GF38. Après, je suis parti parce que, voilà, on a été en désaccord sur certains points.
Oui.
Et cette année, J'ai eu quelques sollicitations, mais je voulais vraiment, vraiment un bon projet, vraiment quelque chose qui me permettait de, un peu comme le Racher, où je suis parti vraiment de la base et ouais. Je me suis dit, avec ces infrastructures, avec ce qu'ils sont capables de faire, essayez-moi d'apporter ma pierre à l'édifice et de faire que, ouais, voilà, qu'on joue à un niveau intéressant. Et j'ai, il y a Saint-Martin-d'Hères qui m'a sollicité et j'ai retrouvé en club de Saint-Martin-d'Hères, voilà, c'est cette chose qui me motivait.
Ouais, tu voulais vraiment un projet effectivement où il fallait bâtir quelque chose sur le long terme.
Voilà,
travailler vraiment sur le fond, quoi.
Exactement, exactement. Après, bon, en plus Saint-Martin-d'Hères, en faisant visiter un peu les infrastructures, bon, déjà la ville, c'est l'agglomération la plus importante du département, bien entendu après Grenoble. Donc déjà c'est quelque chose de très important. La commune elle a un rôle aussi important. Elle est très proche des associations sportives et du football en l'occurrence. Ouais. Et voilà, les dirigeants, ils voulaient vraiment faire quelque chose. Ils veulent vraiment démarrer, parce qu'aujourd'hui, ils sont pas à leur place. Et donc, le projet m'a très intéressé. Moi, je leur ai présenté un peu ce que je voulais faire et on a trouvé vraiment un terrain d'entente.
D'accord, ok, ben super. Et du coup, le projet pour lequel tu as signé, avec des objectifs sans doute sur le court et le moyen et le long terme, c'est quoi du coup in fine ? La finalité, c'est ce qu'on t'a fixé comme objectif ?
Donc dans un premier temps, c'est de faire partir la locomotive. Dans un club, on a une dynamique et la dynamique, c'est la locomotive, donc c'est l'équipe première. Ouais. Aujourd'hui, Saint-Martin-d'Hères, au niveau de la formation des jeunes, en foot animation jusqu'à 13 ans, ils font un très très bon travail, mais qui est pas valorisé parce que en foot à 11 derrière, on n'a pas grand chose à leur proposer en termes de niveau. Donc, ce sont des joueurs qui vont un peu alimenter d'autres clubs voisins, pour pas les nommer, un club comme Hébin. Après, c'est il y a aucun problème, c'est de bonne guerre. Eux, ils ont des niveaux qui ils peuvent proposer à des joueurs de pouvoir faire plusieurs séances par semaine et jouer à niveau régional, alors qu'aujourd'hui Saint-Martin-d'Hères on n'est pas en capacité de pouvoir leur proposer ce genre de choses.
Ouais, bien sûr.
Et donc moi mon objectif c'est avant tout de faire démarrer, de dire ouais voilà, aujourd'hui à Saint-Martin-d'Hères c'est pas un cliché, c'est pas un club de quartier, loin de là, c'est une grande ville, ça doit être un grand club, comme il a été il y a une quinzaine d'années. C'était un club qui jouait en honneur régional, voire honneur, et aujourd'hui on doit retrouver ce blason-là. Donc voilà, c'est la locomotive dans l'équipe première, quand je dis équipe première, bien entendu, j'englobe la catégorie senior, parce que une équipe, ça fonctionne pas. Il y a aussi la réserve. D'ailleurs, j'en ai profité pour amener mon ami Samir, qui était aussi au Racher, un garçon qui est aussi très compétent, qui a beaucoup de valeur, parce que j'attache beaucoup d'importance sur la valeur humaine. Oui. Et voilà, et on fait quelque chose de plutôt cohérent cette année. Lui, il se peut que là, on n'est pas encore, c'est pas encore définitivement fait, mais il se peut qu'il puisse monter en D2. Nous, on finira dans les trois premiers, mais si le championnat avait été à son terme, on aurait été dans les 4-5 premiers. Donc voilà, c'était vraiment la saison que je voulais faire.
Ouais, bah c'est super, que des bonnes nouvelles. Donc du coup, tu disais un peu plus tôt, là, du coup, tu as consolidé, on va dire, sans doute ton effectif, tu as commencé à mettre des choses en place. L'idée, c'était de pas descendre, c'était de se positionner dans le championnat. Oui. Du coup, je suppose que l'année prochaine, tu vas vouloir un petit peu aller viser un peu plus haut. Est-ce que tu vas vouloir la monter tout de suite ou est-ce que tu voulais aller te frotter d'abord aux premières places? Quelle est la stratégie, du coup, pour la saison prochaine?
Ouais, donc moi, comme je te l'ai dit, moi, cette année, c'était une année de transition. J'ai vraiment fait un état des lieux un peu du club et de l'effectif que moi, j'avais en main. Aujourd'hui, j'ai analysé mes points forts et mes points faibles. Donc, par rapport à ça, moi, maintenant que je vais pouvoir manœuvrer, je vais y voir un peu plus clair et je vais pouvoir faire un recrutement qui va être à la hauteur de nos objectifs. L'année prochaine, on fera tout en tous les cas pour accéder à la R3. Si on n'y arrive pas, il n'y aura pas mort d'homme. Mais il faut qu'on s'y rapproche rapidement.
D'accord, ok, ça marche. Donc, tu vois, je vais parler un petit peu plus de te prendre dans l'émission, je vais donner un petit peu le point sur les actualités. Il y a quand même vu déjà qu'il y a quelques clubs qui commencent déjà à s'agiter un petit peu et à recruter du monde. Est-ce que vous, déjà, il y a des choses qui vont être annoncées ou qui ont été annoncées, ou est-ce que pour le moment, vous êtes encore en sondage?
Non, nous, pour l'instant, en toute sincérité, moi, je fonctionne d'année en année, même si je me suis inscrit sur un projet, mais d'année en année, il faut que je fasse le bilan avec mes dirigeants, voir leur dire ce que j'ai trouvé déjà dans dans toute la globalité du club, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, les points améliorés, etc. Et par rapport à ça, ensuite voir avec mes joueurs quels sont les joueurs qui vont s'inscrire dans notre projet, même si moi je leur avais déjà décrit ce que je voulais faire. Mais bon, après entre dire ce que je voulais faire, et là on a vécu quand même un an et ils ont pu voir un peu la rigueur que moi j'ai pu mettre dans les séances d'entraînement et ce que je leur demandais, parce qu'il y a des garçons qui pour eux il y a une certaine difficulté à avoir à mettre un curseur, à avoir une certaine rigueur de par leur vie professionnelle, de par leur vie familiale, et que je comprends très très bien. Mais moi, il faut que ce soit clair, net et bien précis. Si on veut aller au niveau régional, il faut une rigueur pour pouvoir y aller. Et il faut avoir un engagement à tout instant. Aujourd'hui, je vois un peu autour de moi les joueurs, ils signent une licence pour signer une licence ou une licence. Oui. Ce n'est pas rien, c'est un engagement que l'on prend avec le club, avec son staff. Et il faut aller au bout de son engagement. Et le bout de l'engagement, c'est ça part par les entraînements pour être performant.
Ah oui, mais c'est tout à fait d'accord. Donc, tu n'as pas encore fait le tour avec les joueurs de qui partirait ou qui resterait?
Non. D'abord, je vais voir mes dirigeants. Ensuite, dans un second temps, je verrai mes joueurs. Et là, même si j'ai déjà au niveau du recrutement, bon, ça bouge, on voit un peu des joueurs, parce que j'ai déjà mes idées. Moi, mes idées, elles sont déjà définies. Mais voilà, je veux faire les choses en ordre.
Non, bien sûr. Je comprends. Tu disais un peu plus tôt dans l'émission également que c'était pas forcément toujours évident. Il y avait des mentalités qui ont changé. De la présence des entraînements, etc. Peut-être l'investissement justement des joueurs avait évolué. Comment toi justement, qui a été professionnel et qui aussi a connu un petit peu ce changement de mentalité, comment toi tu travailles justement pour que tes joueurs restent impliqués à 100% tout au long de la saison?
Aujourd'hui, moi, en tous les cas, c'est ce qui me concerne, et j'en ai discuté avec pas mal de collègues. Il y a une remise en question, mais vraiment une grosse remise en question en termes de façon de faire, de fonctionnement, parce que nous, quand nous étions joueurs, il y avait l'entraîneur, il te disait quelque chose, tu faisais et point, il n'y avait pas de questionnement, etc. Aujourd'hui, voilà, il y a une façon d'aborder ton groupe, d'aborder l'individu qui n'est pas comme auparavant. Il y a des garçons qui viennent là peut-être pour consommer quelque chose, c'est pas forcément des passionnés, ils aiment le football, mais comme nous, pas comme nous on l'a aimé. Voilà, il faut être très psychologue, il faut leur donner envie de venir à l'entraînement par des séances très attrayantes, hyper ludiques, mais tout en les faisant progresser. Aujourd'hui c'est tout le casse-tête de l'éducateur.
Dans cette émission, des présidents ou des éducateurs qui nous disaient justement que c'était compliqué parce que tu as repris le terme sans que je le dise, mais tu parlais de consommateurs. Il y a beaucoup de présidents et d'entraîneurs qui utilisent ce terme en disant aujourd'hui des joueurs sont devenus des consommateurs. Ils viennent dans le club parce que il y a un synthétique ou parce que il y a quelqu'un dans le club qui a fait ce qu'ils ont signé, mais ils signent pas dans le club parce qu'il y a un projet ou parce que ils aiment le club, effectivement. Et donc, effectivement, ça nécessite, comme tu l'as dit, aussi de changer un petit peu le discours et de fonctionner autrement. Peut-être qu'effectivement, et je pense que tu as raison, une partie de la solution vient aussi des éducateurs. Et je te remercie en tout cas pour ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a plusieurs entraîneurs aujourd'hui, les présidents, qui se posent la question de savoir comment ils font. Et notamment ceux qui sont en pleine campagne de recrutement en même temps. Mon papa est souscrit d'un club. Aujourd'hui, pour convaincre les joueurs de venir dans le club, etc. Dans un club en plus où il n'y a pas de prime de match, dans un club on va dire où il y a peu de moyens et aussi sur les infrastructures il faut se battre, il faut convaincre. Et quand on joue aussi à des niveaux qui sont assez élevés comme R3, R2, R1 et plus, quand il n'y a pas les infrastructures et quand en plus les moyens ne sont pas énormes, il faut convaincre autrement, et ça passe par les éducateurs, je pense. Le discours est important, et les valeurs notamment.
Après, c'est sûr. Après, c'est pas systématique au football, hein. Ça reflète la société.
Mais bien sûr, mais tout à fait.
Aujourd'hui, les jeunes, ils ont un manque ils ont du mal à se remettre en question. Je veux dire, le sport, c'est pour moi l'homme que je suis. Certes, je dois tout à mes parents au niveau de l'éducation, mais le football, il m'a aussi formé. Je suis l'homme que je suis aujourd'hui. C'est aussi grâce beaucoup au football, parce que le football, tu dois donner, mais tu as à recevoir et tu as beaucoup à donner. Et aujourd'hui, voilà, les jeunes, ça reflète la société. Aujourd'hui, les jeunes, ils consomment, il a besoin de quelque chose. Aujourd'hui, il le veut, demain, il le veut plus, il le jette. Alors que non. C'est compliqué. C'est pour ça que nous, c'est un gros casse-tête, mais en tant qu'éducateur, on doit trouver des choses pour qu'ils aient envie de venir à l'entraînement, des choses, qu'il y avait pas avant, mais diversifier ses séances d'entraînement, il y a plein de choses. Aujourd'hui, on parle de stage de cohésion, mais avant, la cohésion, on ne savait même pas ce que c'était, cohésion.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il n'y a plus, de vestiaires. Avant, les vestiaires, c'était très important. Avant de jouer au football, déjà, on apprenait à connaître son partenaire.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Aujourd'hui, il y a des garçons qui viennent à l'entraînement, ils passent pas par la case vestiaire, ils viennent avec les chaussures, ils s'entraînent, ils partent.
C'est vrai.
C'est un sport collectif. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on fait les choses collectivement.
Oui, bien sûr.
La complexité, elle est là. Ça reflète la société. Aujourd'hui, les gens, ils sont de plus en plus individuels. Ça fait que c'est un sport collectif, et pour être performant, on est performant. Sans l'autre, nous sommes rien. Donc, c'est tout là et la complicité de
j'apprécie en tout cas ton discours. David, si tu veux bien, on va changer un petit peu de sujet, on va reparler un petit peu de toi plus personnellement. J'ai bien compris que tu étais dans un projet plutôt sur le moyen long terme avec Saint-Martin-d'Air, avec des objectifs notamment de retourner en R3 et plus. Aujourd'hui, toi, tu as côtoyé le monde professionnel. Est-ce que toi aussi, en tant qu'entraîneur, tu veux côtoyer ce milieu professionnel, ou est-ce que tu es bien là où tu es? Tu ne veux pas spécialement prendre la tête d'une équipe, de nationale ou...
À un moment donné, oui, j'avais vraiment envie d'en faire ma profession. Oui. Et là, ça fait 2-3 ans. Après réflexion, en fait, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je souhaite. Je pense pas m'épanouir dans non. Moi,
qu'est-ce que ça a changé?
Non, c'est ma vie familiale, mes enfants. Mais aujourd'hui, mes enfants, ils sont grands, mais j'ai beaucoup plus de complicité avec eux. Il y a plein de choses. Moi, je prends beaucoup soin. Je suis pas narcissique, mais je prends beaucoup soin de moi. J'aime aussi faire du sport. Et quand je vois un peu mes collègues à Grenoble qui sont pour pas les citer, comme Arnaud, Arnaud Gentil, je dis ça avec eux, ils passent beaucoup, mais vraiment beaucoup de temps. Et moi, j'ai pas tout ce temps à passer avec le football. Moi, le football, c'était ma passion, ça a été toute ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai envie de transmettre ce que moi j'ai appris, mais pas en faire ma profession. Il y a plein d'autres choses à faire. Donc voilà.
Écoute, merci en tout cas pour ces réponses. David, on va marquer une courte pause musicale. Tu vas choisir un morceau de Pink. Est-ce que tu peux nous dire quel morceau tu veux qu'on diffuse?
Ouais, c'est Pink, c'est What About Us.
What About Us, c'est parfait. Merci en tout cas pour ce morceau. On se retrouve tout à l'heure, David, pour le jeu du question-réponse.
Ça marche, merci, au revoir.
Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.